Bonjour et bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Aujourd'hui, on n'a pas de chronique de voyage. Voilà, elle a le droit de prendre des vacances, Maude Carrier alias la groupe trotteuse. C'est bien, elle va nous revenir en forme avec d'autres sujets, je pense bien, j'espère, sinon quoi. Voilà, parce que la dernière ici à Escale 16-17 sera la dernière de l'année, bien sûr. Ouais, la fin de l'émission, ce serait le 21 décembre, si je ne me trompe pas. Fulgence Plat au micro, et puis bon, on a un invité à 16h30, je vais recevoir Alain Alexandre, fondateur du Centre culturel afro-canadien, c'est tout nouveau, hein, en plein centre-ville de Montréal, et pour nous parler de la mission de ce Centre culturel afro-canadien, afro et centre culturel. Alors, d'ici là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler un peu du Musée des Beaux-Arts, ensuite parler de la Coupe du Monde, du Salon du Livre. Je vais commencer par le Salon du Livre d'abord, rapidement, parce que ouais, j'ai pas mal de sujets sur la Coupe du Monde. Voilà, des équipes qui se font écraser 7-0. Alors là, il faut, c'est quand même un amical, quoi. Salon du Livre qui a démarré depuis... c'est depuis ce matin. Voilà. Ce qui se passe du côté du... En présentiel, hein. C'est pas, il faut le dire, c'est pas en ligne. Parce qu'il y a trois versions de Salon du Livre. Hein. Dans la ville, c'est depuis le 11 jusqu'au 27. Et puis en ligne aussi, c'est depuis le 11 jusqu'au 27 novembre. Allez-y, c'est le site du Salon du Livre en un seul mot, salondulivre.com/programmation. Vous allez voir ces trois types de Salon du Livre. Ouais, c'est, et l'autre où les gens se déplacent dans les stands et autres, ça se passe au Palais des Congrès. C'est bien ça? Au Palais des Congrès, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, et, du 23 au 27. Dans la ville, c'est du 11 au 27. Et puis en ligne, c'est du 11 au 27. Bon, et puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Salon du Livre, c'est quoi? Ça a été créé d'ailleurs autour d'une communauté d'amoureux de livres et de lecteurs. En devenir, la mission première du Salon était de promouvoir le livre et le plaisir de la lecture comme bien culturel dans la société québécoise. C'est comme ça qu'a pris naissance d'ailleurs, qu'est né ce Salon du Livre de Montréal. Donc, il valorise le rôle essentiel pour des auteurs, des créateurs, des artisans dans le milieu du livre et contribue aussi à faire rayonner la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale. Parce que c'est pas les auteurs québécois, montréalais ou bien je ne sais quoi, de Chicoutimi seulement qu'on retrouve à ce salon, c'est un salon de livres international. Voilà. À l'origine d'ailleurs, pour parler un peu de son historique, c'était il y avait la passion du livre, la passion de la lecture à partager, passion de ce qui ne s'est jamais démenti de 1950, c'est depuis 1950, nos jours, quand même, ça fait pas deux jours, hein. Alors, je n'étais même pas encore né. Voilà, alors, voilà, naissance, 1950, c'est la naissance de ce petit événement qui deviendra grand. La journée du livre, une initiative de la Société de développement du livre d'alors, et puis qui s'est déroulée à l'hôtel Windsor, et puis il y a eu des tentatives multiples, interruptions, renaissance et refonte, qui aboutissent finalement à la formule actuelle du salon. Cet événement phare dans le monde de l'édition francophone en Amérique du Nord. Donc depuis novembre 1978, c'est dans les halls d'exposition de la place Bonaventure que le Salon du Livre s'est installé chaque année, avec qui a attiré d'ailleurs toujours une grande foule plus considérable, qui s'y presse, une foule curieuse, fascinée par ce royaume du livre. Et puis en 2018, 120 000 visiteurs. Il rencontrait plus de 2000 auteurs, waouh, sur les lieux. Ah là, ils sont plus là, ils sont maintenant au Palais des Congrès. Avant, c'était Place Bonaventure, maintenant c'est au Palais des Congrès. Donc, là, je vous le dis, allez-y, déplacez-vous. Pour ceux qui aiment des auteurs, qui seront présents pour des signatures, allez-y sur le site du Salon du Livre pour découvrir au moins à quel centre vos auteurs préférés sont assis et en train de dédicacer les copies. Et voilà, c'est faire la promotion et valoriser le livre ainsi que le plaisir de la lecture, valoriser le rôle essentiel des auteurs, comme je l'ai déjà dit, et faire découvrir la diversité. Et les valeurs, c'est le partage, la diversité, l'inclusion, le plaisir. Quand on dit le plaisir, c'est célébrer le livre et la lecture. Ça, c'est très important. Voilà, les artisans du livre, le milieu littéraire, les bibliophiles, les instances gouvernementales qui sont représentées par le Conseil des arts du Canada, par le Conseil des arts de Montréal et puis par le ministère du patrimoine canadien, ainsi que par la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, qui reconnaissent d'ailleurs le Salon du Livre comme étant la plus exceptionnelle contribution à la promotion de la lecture du livre des auteurs canadiens, les artisans de l'édition. Voilà, les amoureux du livre, ou bien ceux qui ne se sont jamais intéressés au livre, c'est une opportunité de déambuler un peu là-bas, faire une petite promenade, ne dites pas. Il y a de quoi manger sur place d'ailleurs. Voilà, il y a de quoi manger sur place, il y a de quoi boire sur place. Allez-y vous déambuler, rencontrez vos auteurs, les auteurs dont vous avez déjà entendu parler, et essayez d'échanger avec eux. Peut-être que vous allez avoir le virus des livres, une opportunité, pourquoi pas. C'est une fois par année, voilà, Salon du Livre. Et c'est pas seulement à Montréal, mais à d'autres grandes villes, d'autres villes du Québec qui ont le salon, de la province du Québec qui ont le salon. Il y a le Salon du Livre du Québec, de Trois-Rivières, et autres, poésie, des soirées, le Festival international de poésie de Trois-Rivières. Tout ça, ça tourne autour de la littérature, des livres. Voilà. J'ai fini avec ça. Je vais revenir sur ça de temps en temps, comme ça, jusqu'à la fin de ce salon. Et puis, je vais parler maintenant du Musée des Beaux-Arts, avant d'attaquer la Coupe du Monde. Il y a pas mal de gens qui pleurent là-bas et des gens qui pleurent de joie. Voilà. Aussi, voilà, le Musée des Beaux-Arts, le calendrier culturel, les événements à ne pas manquer, conférence. Andras Santo au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le cadre de la série « Les grandes rencontres où des figures incontournables de la scène artistique réfléchissent au musée du 21e siècle ». Allez-y entendre l'auteur et consultant en stratégie culturelle, Andras Santo. Ça va être le mercredi 7 décembre à 17h30. Les places sont limitées, réservées, hein, s'il vous plaît. Bien d'autres événements, Basquiat, Remix, volume 1. Pour entrer, allez-y entrer dans l'univers coloré de Jean-Michel Basquiat, le temps d'une soirée portée par les sons urbains qui ont marqué l'artiste. Au programme, vous allez visiter l'exposition à moitié prix. Ambiance musicale signée de DJ Coq, service de bar, cabine, photo et d'autres surprises. Ça va être le mercredi 30 novembre dès 17h. $12, entrée gratuite pour les membres du musée. Puis il y a d'autres conférences encore, à la découverte d'Albert Dumouchel, juste avant l'ouverture de l'exposition Les Révélations, les estampes d'Albert Dumouchel dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Allez-y visiter, et vous êtes invité à aller assister à ces deux conférences consacrées à l'artiste québécois. Mercredi 30 novembre à 15h, en anglais, Anne Grace, qui est conservatrice de l'art moderne du Musée des Beaux-Arts de Montréal, va présenter les grands thèmes de cette exposition, dont elle assure le commissariat en collaboration avec P.G. Davis, professeur d'histoire de l'art à l'UQAM. Réservez les places, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, le mercredi 30 novembre, toujours, à 17h30, en français, le même événement, ça va se passer. P.G., qui est co-commissaire de l'exposition, va retracer le parcours professionnel d'Albert Dumouchel dans les contextes culturels des années 50 et 60. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir pour des gens qui disent « je ne sais pas où aller, bon j'ai du temps ». Et puis à la salle Bougie, toujours au Musée des Beaux-Arts de Montréal, concert famille, un monde pour Noël. Vous allez embarquer pour un tour du monde en chant et puis en musique avec l'ensemble Alchemia pour honorer les traditions de Noël d'ici et d'ailleurs. Dimanche 4 décembre à 14h30, à partir de 6 ans, ça dit les enfants, les familles qui ont des enfants de 6 ans peuvent aller déjà à partir de 6 ans. Et puis il y a du cinéma aussi là-bas au Musée des Beaux-Arts. Voilà. Dès le 28 novembre, vous allez découvrir le coup de cœur de l'année de EO avec sous-titre en français de Jerzy Slokimowski. Et ne manquez pas surtout le passionnant documentaire de Salvatore Shoemaker of Dreams avec sous-titrage en anglais et puis Luca Cadagnino sur l'un des plus grands génies de la mode, Salvatore Ferragamo, dès le 2 décembre. Voilà. Et il y a quelque chose que je voulais signaler aussi. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal fermera exceptionnellement ses portes à 15h le samedi 26 novembre. Donc les activités de famille n'auront pas lieu ce week-end-là. Pour ceux qui aiment aller en famille, les fins de semaine avec leurs enfants et autres. Ça c'est très important, il fallait que je vous signale ça aussi. Parce que là, vraiment, faut pas aller se planter, se trouver devant la porte et puis il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, Coupe du Monde. Est-ce que je vais commencer par la grande victoire de l'Espagne face au Costa Rica ou bien je vais parler de la défaite de l'Allemagne face au Japon? Le Japon. Je vois le visage de Mathieu là-bas à la régie. Il dit, oh, l'Allemagne qui se fait battre par le Japon. Voilà, ça démarre pas bien. C'est le Japon qui démarre ce mondial avec le tout premier succès de son histoire face aux Allemands. Ils sont surclassés avant la pause et logiquement menés. Les Nippons, ils ont mené. J'ai vu le résumé du match, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai ça. Voilà. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est ce que l'Espagne a fait face au Costa Rica d'ailleurs. Et l'équipe espagnole n'a pas du tout laissé la chance aux Costa Ricains de même d'avoir des tirs au but, comment des buts, des frappes bien placées pour essayer de tromper le gardien espagnol. Non, il n'était pas question. Voilà. C'est les entrées d'Asano et Doan ont pesé. C'est des jeunes, hein. Gonda a assuré dans sa cage 4 parades à la 70e minute. Voilà. À l'âge de 18 ans et 3 jours, l'attaquant Youssouf Amoukoko est le plus jeune joueur allemand à jouer à la Coupe du Monde. Oui. Et plus globalement, le plus jeune depuis 20 ans après le Nigérian Femi Opamoumbi le 12 juin 2002. Voilà. C'est quelque chose, hein. Cette grande surprise créée par le Japon, les Allemands n'en reviennent pas. Oui, ça c'est la nouvelle sensation. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs hier. L'Arabie Saoudite qui fait chuter l'Argentine avec le grand Messi, 2-1. Alors là, il faut en parler. C'est la deuxième sensation de cette Coupe du Monde. Au lendemain de la défaite de surprise de l'Argentine. Pourquoi on dit surprise ? Parce que moi, je dis souvent que toutes les équipes qui se retrouvent à ce stade de la compétition sont toutes les mêmes. Voilà, c'est des équipes, il ne faut pas les sous-estimer. L'Arabie Saoudite, et puis aujourd'hui, j'en parlais hier, Mathieu se croyait en férié aujourd'hui. J'ai dit, Mathieu, tu n'es pas en Arabie Saoudite.
Non, mais je ne travaille pas aujourd'hui, je suis un hologramme en ce moment. Ce n'est pas Mathieu qui est derrière la console.
Alors, les Allemands, je ne sais pas, mais je pense bien qu'ils vont se rattraper. Je me rappelle bien de la Coupe du Monde 2018 en Russie, ils avaient perdu aussi leur premier match comme ça d'entrée. Après, ils se sont rattrapés, mais c'est pas eux qui sont devenus champions du monde. Donc, ils commencent leur Coupe du Monde au Qatar avec, voilà, comme il y avait il y a 4 ans en Russie, par une défaite. Oh non, c'est pas. J'ai vu la réaction des Allemands sur le web, je me suis dit, ça, je m'attendais, je ne peux pas attendre mieux, je ne peux pas voir mieux que ça. Ça permet aux gens de se ressaisir pour le deuxième match. Voilà. C'est le Japon. Japon qui bat l'Allemagne. Oui. Et ils s'en voudront, les Allemands, ils vont s'en vouloir de n'avoir pas pris le large. Ça, c'est. Pourtant, la Nationalmannschaft, qui semblait elle aussi parfaitement lancée vers la victoire au terme d'une première période, commençait timidement. Je ne sais pas qu'est-ce que l'entraîneur leur a dit de faire ou bien de ne pas faire. Et ils auraient dû attaquer tout de suite. Et puis, je pense bien qu'ils auraient dû pousser les Nippons dans leur camp, dans leur filet, pour que les gardiens n'arrivent même pas à sauver des balles ou bien la défense soit complètement désorganisée. Mais non, ça n'a pas été le cas. Et puis, bon, voilà, c'est là où ils sont arrivés. 2-1, coup de sifflet final. On va faire une petite pause musicale avant de revenir avec la suite de la Coupe du Monde, parce que les matchs se jouent tous les jours. Demain, il y a Suisse, Cameroun à 4h50 du matin. Pour les lèvres tôt, oui, mais les lèvres tard, non. 4h05 du matin, moi je. 4h50, pardon, si je ne me trompe pas. Mais non, je ne suis pas encore éveillé. Voilà. On va en musique, Mathieu. Merci.
Tout à fait.
My attention's elsewhere, you've been saying. Attentive to you less and less and less these days. I need you to know there ain't no games I'm playing. I don't want nobody else, this love is here to stay. All I want is to be what you want. Baby, show. Love me tender, love me sweet.
Neyo, handle me gently. Voilà. Ok, on reste avec la Coupe du Monde. Hein. C'est jusqu'à la fin du mois comme ça. Et tous les jours, il y a 2-3 matchs. 2-3 matchs, 8h, 5h du matin, 4h50, 11h, 14h. Voilà. C'est la France qui a pu se sauver de cette débâcle hier face à l'Australie. Ils ont encaissé le premier but, ensuite ils ont égalisé. Et puis, bon, ben, ils ont mis, ça fait, oui, 4-1, si je ne me trompe pas, ou bien, quelque chose comme ça, ce genre. Voilà, tu me corriges Mathieu si je me trompe de score, 4-1.
Exactement, 4-1.
Oui, oui, voilà, ils ont échappé belle. Non mais ils ont l'attaque pour ça, pour marquer des buts, c'est ça. Bon, moi je vais parler un peu de la très grande victoire de l'Espagne face au Costa Rica. Ça c'est un écrasement, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le score fleuve. À partir de 4 buts, 5 buts, 6 buts, c'est un score fleuve. Voilà, c'est beaucoup, c'est trop. 3 buts ça va, 2-3 buts à 0, mais 7-0... si j'étais l'entraîneur de l'Espagne, j'allais dire bon ben arrêtez la partie de 4-5 buts. Mais non, c'est du. Je vois Mathieu qui remue sa tête là-bas. Ouais, si j'étais l'entraîneur, j'allais demander pour ne pas le. Il y a une question d'humiliation quelque part là aussi. Voilà. C'est comme si les autres n'étaient même pas du tout sur le terrain quoi. Voilà, alors qu'ils étaient là. Donc l'Espagne a pris le taureau par les cornes, comme je le disais. Après la surprenante défaite de l'Allemagne face au Japon, c'est ça, ça motive les autres. Les autres se disent, non, on va pas se laisser piéger comme ça. On va aller dès la première minute de jeu. Donc la Roja n'a, elle, pas fait de détails face au Costa Rica, 7-0. Là, il faut le faire. Hein. Ça s'est passé aujourd'hui. Bon, les hommes de Luis Enrique ont s'y fait le plein de confiance dans le jeu avant le choc face à la sélection dimanche, à la sélection allemande dimanche. Donc dimanche, ils vont rencontrer l'Allemagne. Ça va être une autre paire de manches. Mais les Allemands, avec leur défaite face au Japon, je pense bien qu'ils vont se rattraper là-bas. Donc, ça a été jusqu'à présent la pâme de la plus grosse fessée reçue dans ce début de mondial, qui revient pour le moment au Costa Rica, 7-0. Putain, est-ce qu'ils auront le moral de revenir pour le deuxième match? J'ai aucune idée. Les Ticos, ils ont vécu une soirée vraiment cauchemardesque. Surtout le gardien du PSG, Keylor Navas, qui a passé son temps à aller chercher le ballon toujours au fond de ses filets. Pourquoi ils ne l'ont pas remplacé de toutes les façons? Quand tu fais. Déjà, tu prends 3 buts, il y a le gardien remplaçant qui peut prendre sa place, non? On lui le laisse, le même gardien qui prend 7 buts. Ça dit que le gardien remplaçant n'est pas aussi bon que ça, quoi. C'est ce que je me suis dit. On ne laisse pas un gardien de but dans les filets pour prendre 7 buts. Et il est complètement démotivé, découragé, il n'a même plus envie de faire des plongeons.
Est-ce qu'il a fait beaucoup d'arrêts?
Oui, il a fait quelques arrêts, mais encaisser 7 buts au cours d'un match, on ne laisse pas ce même gardien dans les buts jusqu'au coup de sifflet final. Quoi. Donc, bien averti contre tout faux pas après la surprise créée par les Nippons face aux Allemands, juste avant son match ce mercredi. Donc, la sélection de Luis Enrique n'est pas tombée dans le piège. Hein, voilà. Avec un 11 où l'on s'insurgeait sur le choix de titulariser Rodrigo en défense centrale. Et l'un des meilleurs, ça est Marco Asensio. Plutôt que Morata en pointe, l'entraîneur du Barça a toutefois vu les siens mettre très rapidement fin à tout débat, puisque la victoire était déjà assurée quand même pas après la demi-heure de jeu, c'était clair. Ouais. Le Costa Rica n'a pas tiré une seule fois dans les buts espagnols. Même pas une seule fois.
C'est ce que je viens de voir, ouais.
Voilà.
ça dit que l'Espagne a tiré 17 fois, donc le gardien de but a fait 10 arrêts.
Oui, c'est la Coupe du Monde, on n'est pas là pour...
Il a arrêté plus de buts qu'il en a laissé passer quand
oui,
même.
Oui, on est là pour aller chercher tout le temps les ballons dans le fond de ses filets. On est là pour arrêter les ballons. Les tirs, les, voilà, ça, c'est là où je veux en venir. Donc, il y avait des jeunes quand même là-dedans. Hein. Il y avait une doublette de jeunesse, là, des teenagers, comme on les appelle, eux-mêmes, intenables au milieu du terrain, la paire Gavi et Pedri. Gavi, c'est un garçon qui est très jeune, hein, il vient savoir, c'est 18 ans et 110 jours, là, tout jeune, et il marque à la Coupe du Monde. Alors là, il faut le faire. Hein. Ça fait penser à Pelé, là. Voilà. Ouais, ça fait penser. C'est le plus jeune buteur dans un mondial depuis Pelé en 1958. Le plus jeune buteur, oui, parce que le jeune allemand Youssoufa Moukoko, il n'a pas marqué. Il a 18 ans lui aussi, si je ne me trompe pas, mais il n'a pas marqué. S'il avait marqué, on allait parler de ses saisons. Gavi, le jeune espagnol, 18 ans, 110 jours. C'est le plus jeune joueur buteur, le jeune buteur dans un mondial depuis Pelé en 58. Ouais, Pelé, il avait 18 ans aussi, là. C'était comme ça. Le style, quand il marque et puis il saute là-haut. Tous les joueurs qui sont venus à Prodigy jusqu'à aujourd'hui, ils ont ce style de fierté, de célébrer le but et de se mettre. Gavi, le plus jeune buteur de la Roja, au mondial, d'une superbe reprise du droit 5-0 à la 74e minute. C'était beau son but, j'ai vu ça. Là, je me suis dit non, là, c'est. Ouais, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse, quoi.
Rien de moins, moi et Pelé, le même combat, c'est ça?
Oui, oui, non, j'étais jeune quand je vois les buts de à l'époque où on faisait souvent passer, comment dirais-je, les buts de Pelé, les images de Pelé. Je n'ai pas dit non, pas comparativement, moi. Non, 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 moi je ne marquais pas des beaux buts comme ça. Je pense à Pelé quand je dis ça, sincèrement. C'est les garçons qu'il faut suivre de près, c'est les gens. L'Espagne a toute une pépinière, toute une des gens qui la relève est là pour remplacer les anciens qui vont partir. Et puis bon, c'est le pays qui a les plus grands clubs du monde, le Barça, le Real Madrid. Tout le monde veut passer dans ces clubs-là d'ailleurs. Alors, ils ont leur école, ils ont leur propre centre de formation, d'où sortent beaucoup de pépites. Ça, il faut le dire. Donc là, il faut pas. Je suis très content pour eux, mais. C'est une équipe qui n'a jamais surpris. Quand ils arrivent au quart de finale, demi-finale, voilà, ça chute tout le temps. C'est comme le Portugal. Ils ont de très bons joueurs. Ça joue très bien, mais ça ne marque pas assez. Bon, cette fois-ci, j'ai été surpris que l'Espagne a pu mettre au moins 7 buts. Ils se sont dit, bon, si le reste du tournoi, on ne marque plus, on a déjà 7 dans le panier. Mais ça ne suffit pas pour aller à la finale. Voilà.
Parce que j'imagine qu'ils accumulent des points par but.
Oui, et à l'école.
Ça pourrait leur être bénéfique.
Utile, bénéfique au cas de. D'ex-aequo, et les nombres de buts marqués, les goals à virage. Tu surplantes celui, l'équipe qui a le plus de. Le même nombre de points que toi, dont tu prends la première place. C'est comme ça.
Probablement donc pour ceux qui n'ont pas arrêté après 4. Se sont dit, on va faire le plein de buts.
C'est frustrant quand même pour l'équipe adverse. Même si c'est la Coupe du Monde. Hein, Mathieu? C'est frustrant. Mais l'équipe du Costa Rica, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Ça dit que. Comme l'Espagne a vu comment le Japon a battu l'Allemagne, ils se sont dit, on ne va pas se laisser piéger, c'est comme ça. Voilà, et puis, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes là pour que je puisse parler de ça encore. Et oui, j'ai encore 2 minutes. Et je me suis dit, alors, à cette étape de la compétition, toutes les équipes se valent. Alors, toutes ces grandes équipes, l'Italie n'est même pas là, elle avait été éliminée déjà, elle n'est même pas présente là-bas, ouais, l'Italie n'est pas là. Et toutes ces grandes équipes qui pensent que. Elles vont rencontrer des équipes qui ne sont pas très 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 connues ou bien des pays qui ne sont pas dans les 10 premiers ou bien les 20 premiers et ils vont s'en sortir facilement. Non, alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toutes les équipes qui sont qualifiées ont le droit de marquer, de gagner et de battre les grandes équipes occidentales, européennes et autres. Et si les Saoudiens aujourd'hui le jour férié là-bas chez eux, c'est grâce à leur victoire face à l'Argentine. Ça rend Mathieu jaloux parce qu'il ne peut pas être un repos aujourd'hui. J'ai dit, mais tu n'es pas en Arabie Saoudite. Alors, c'est parti. Vous voyez, quand je parle de sport, parce que c'est un événement qui se passe seulement aux 4 ans. C'est pas tous les mois, c'est pas tous les 6 mois, c'est pas tous les ans. C'est un événement qui se passe aux 4 ans. Alors, il faut en parler tout le temps. Il y a des marques, 2-3 marques par jour, sinon je n'aurai même pas l'opportunité de revenir sur toutes les rencontres qui vont se passer journalièrement. Et demain, j'aime bien. Il y a le Sénégal qui n'a pas mal joué contre les Pays-Bas. Mais malheureusement, ils ont pris les 2 buts bêtement en prolongation. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger maintenant pour remonter un peu la pente parce qu'il faut le faire. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Non, tu te dis, au fait, voilà, c'est un peu mitigé. Et puis le meilleur joueur d'ailleurs, Sadio Mané n'est même pas sur la liste, il est blessé. Au niveau de la France, ils n'ont pas trop à s'inquiéter, même si Benzema aussi blessé. Mais il y a Mbappé qui est là, il y a Giroud qui est là, il y a Griezmann qui est là, il y a les Dembélé qui sont là aussi. Il y a pas mal de gens là-bas qui peuvent mettre les ballons dans les filets adverses. Quoi. Je pense bien que la France est bien gâtée sur ce plan. Et puis les motivations ne sont pas les mêmes. C'est les gens qui... c'est comme le Sénégal qui a joué très, 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 très bien joué et qui se fait... qui encaisse bêtement comme ça, manque de concentration. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs quand j'ai vu le match, le résumé du match aussi. Et puis les commentaires, je me suis dit, c'est un problème de manque de concentration. Ils se sont dit, oh, on a le nul avec les Néerlandais. On va essayer d'aller de l'avant avec ça. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Alain Alexandre, qui est le fondateur du Centre culturel afro-canadien, qui va nous parler de la mission de ce centre culturel-là. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission avec mon invité Alain Alexandre, fondateur du Centre culturel afro-canadien, tout nouveau. Hein. Alors j'ai eu la chance de le rencontrer à un sommet de la Fondation Dynastie il y a quelques semaines. Alors suite à nos échanges, il faisait partie des panélistes, c'est comme ça que j'ai pu le découvrir. Ensuite on a échangé et puis bon, ben, j'ai dit écoute Alain, il va falloir que je vais t'inviter pour que tu viennes parler de ce centre culturel afro-canadien. Et une manière modeste à nous de faire la promotion et de faire découvrir ce centre culturel qui est situé en plein centre-ville de Montréal. Si je me trompe, il va me le corriger. Alors, qui lui il est? Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entrepreneur social et organisateur communautaire passionné par les gens, l'inclusion économique et l'impact social à grande échelle. C'est Montréalais. Voilà, il est impliqué socialement et politiquement. Il œuvre dans plusieurs causes et sièges sur le conseil d'administration de plusieurs organisations qui font avancer les intérêts socio-économiques des groupes typiquement sous-représentés, les jeunes, les femmes et les communautés LGBTQ, de racisés, dont le RJCCQ ou Dassault Féminin et Continuum 21, et pour n'en citer que quelques-uns. Il a servi comme conseiller politique senior à plusieurs ministres du cabinet du Premier ministre du Canada. Alain est le fondateur principal et instigateur du projet du Centre culturel afro-canadien de Montréal. Voilà. Bonjour Alain Alexandre.
Bonjour Monsieur Blas.
Appelle-moi Fulgence, Alain.
Bonjour Fulgence.
Monsieur Blas. Là, Alain me met sur un piédestal. Non. Alors merci d'avoir le temps. Mais moi j'ai le droit de vous voyez. Voilà. Alain,
on peut se tutoyer, j'ai d'accord. Aucun problème avec ça.
Vous êtes mon invité, je peux vous voyez. D'accord. Si vous le permettez, je vais vous tutoyer. Alors.
D'accord.
Alors, quelle mouche qui vous a piqué, ou bien, je dis pas une mouche, mais comment l'idée est venue? Vous vous êtes rendu compte peut-être que on n'avait pas un centre culturel comme ça ici à Montréal, et puis vous vous êtes dit, attendez, il y a quelque chose qui nous manque.
Tout à fait. En fait, je vais vous donner un peu la genèse de l'histoire.
Oui.
Alors, j'ai travaillé, tu l'as fait d'emblée, plusieurs années en politique fédérale. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des initiatives structurantes pour la communauté noire.
Oui.
Il est arrivé que au début 2021, je trouvais que le temps pour moi était de passer à autre chose. Ah. Donc, je contemplais différentes options et j'ai décidé de quitter la politique pour prendre un peu de temps en congé. Le temps de mon congé, j'ai eu une offre, dans le fond, de plusieurs institutions à Toronto pour aller travailler sur Bay Street.
Oui.
Et quand une offre est arrivée sur la table que je trouvais qui était assez intéressante, j'ai décidé à ce moment-là de partir à l'étranger, de me prendre quelques semaines de vacances.
Oui.
Alors que j'étais à l'étranger, j'ai eu un rêve de centre culturel à Montréal. J'ai eu le rêve que je suis en train de couper un ruban pour faire le lancement de centre culturel.
Pour l'inauguration.
Alors, tout à fait. Alors, c'est à ce moment-là que je pense que l'idée a cheminé. Alors, le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai appelé plusieurs personnes dans la ville de Montréal et je leur ai demandé, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans le passé? Est-ce qu'il y a des conversations de ce côté-là? Et j'étais très surpris d'apprendre, en fait, qu'on n'avait pas vraiment un centre qui existait comme ça, mais pas seulement qu'il n'y avait pas qui existait, c'est que l'initiative de cette nature-là n'a jamais été vraiment entre entreprises. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était le temps de faire quelque chose. Mmh. Or, j'ai décidé, au lieu de prendre l'emploi qui m'attendait sur Bay Street, j'ai décidé bénévolement à ce moment-là de m'impliquer pour partir de l'initiative du Centre culturel Afro-Canadien de Montréal qu'on a lancé au mois de mai 2021.
Oui, au mois de mai 2021. Ça fait juste un peu plus d'un an, quoi.
On va célébrer notre 18e mois à la fin du mois de novembre.
Oui, un peu plus d'un an. Voilà, bon, bravo et félicitations avec tous ceux qui vous entourent, qui ont pris le train avec vous, hein. Parce que, est-ce que les gens, quand vous avez soumis le projet, ils ont dit, qu'est-ce qu'il veut, ce jeune homme-là?
C'est tout à fait la réaction que j'ai eue. Mais par contre, une chose que je dirais, c'est que je voudrais vraiment donner énormément de crédit à notre communauté.
Oui.
Parce que, autant que l'idée était folle comme telle, les gens ont compris la nécessité de faire quelque chose.
Oui.
Alors, c'est cette compréhension-là qui a mené des gens comme Franz Etelemi, fondateur du groupe 3737, de Madeleine Fekia, maintenant qui est rendue, qui a été nommée récemment consul du Canada à Chicago, qui a amené des Guy Mouchagaloussa, etc., à embarquer dans ce projet-là pour donner leur perspective sur la manière dont ça pourrait se faire. Alors, l'engouement était là parce qu'il y avait une passion qui était là. Mais je crois également qu'il y avait la compréhension de la nécessité d'avoir un espace qui pouvait permettre aux communautés noires de pouvoir s'affirmer et s'exprimer culturellement de manière authentique.
Oui.
Dans une ville comme Montréal, dont la population est déjà, population noire est 10,6% et une population qui représente le plus grand groupe ethnique de la ville de Montréal. Ah. Alors, il y a une aberration même par le fait qu'on a plusieurs autres communautés qui font la beauté de la richesse de la ville de Montréal, qui ont des espaces comme ça. Or, au niveau de la communauté noire, ou des communautés noires, on n'a pas cet espace-là. Alors, je pense qu'il y avait une compréhension qu'il y avait besoin de faire quelque chose.
Oui, c'est bien, vous avez bien, comment dire, signifié en appuyant sur des communautés noires, parce que il y a des communautés noires à Montréal. Voilà.
Oui.
Et quelle est la mission première de ce centre culturel afro-canadien de Montréal?
Notre mission première, c'est de préserver, promouvoir et faire rayonner le patrimoine culturel des communautés noires sous toutes les formes, en utilisant l'art comme vecteur de cette expression-là. Alors, c'est vraiment le cœur même de qu'est-ce qu'on fait, avec des objectifs principaux qui, naturellement, touchent la dimension de l'héritage, s'assurer qu'on donne un point d'ancrage aux différentes communautés noires, et de le faire d'une manière collaborative, d'une manière rassembleuse, qui ne compte pas l'histoire d'une communauté noire, mais l'histoire d'avoir de toute la communauté noire et tous les points communs dans le fond qui les rassemblent. Alors, je pense qu'il y a des différences qui existent au sein de nos communautés et elles doivent être célébrées.
Oui.
Mais souvent, on prend ces différences-là pour nous diviser. Alors, le centre culturel, dans son positionnement philosophique, se veut être un espace également, un point d'ancrage pour toute la communauté noire et de mettre de l'avant cette beauté-là.
Wow. Je suis allé me promener un peu sur votre site, là, quand j'ai vu même un peu, je parle pas de l'héritage, on parlait un peu de l'inclusion. Le CECAM, là, vraiment, je suis très impressionné. J'ai bien hâte de visiter les locaux si c'est déjà ouvert au public. Et, avant de venir parler un peu des deux expositions qui viennent d'avoir lieu et qui ont pris fin d'ailleurs, comment s'est faite la collaboration avec le Conseil des arts de Montréal concernant l'expo qui a eu lieu là-bas et qui vient de finir, là, le 18 novembre? Comment vous avez pu convaincre pourquoi c'est là-bas que ça s'est passé au Conseil des arts de Montréal?
Bien, je tiens d'abord à dire que l'exposition a été tellement populaire que ça a été prolongé jusqu'au 16 décembre.
Oui. Alors, ah bon, c'est prolongé?
Écoutez, ça a été prolongé jusqu'au 16 décembre, effectivement.
Ah.
Alors, ça, c'est un gage d'une soif qui existe au sein même de la communauté que d'avoir eu autant de demandes pour que cette activités-là soient prolongées.
Oui.
Alors, ça va continuer jusqu'au 16 décembre.
Oui. Bravo à vous et l'équipe, et puis aux artistes qui exposent là-bas aussi. Et puis, il y a la belle collaboration avec le Conseil des arts de Montréal.
Et tout à fait. Et le Conseil des arts de Montréal a été un partenaire de choix pour nous dès le départ, parce qu'on reconnaît le travail qui a été effectué au moins dans les dernières années pour vraiment mettre de l'avant la diversité artistique et culturelle qui vraiment reflète la ville de Montréal. Alors, on a des personnes, une direction qui est très présente dans la communauté, qui essaie de bien faire, mais souvent n'ont pas les moyens d'y arriver.
Mmh.
Mais on a également le président du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, qui est également M. Benmark Diendéré,
oui.
Alors, qui lui-même est d'origine d'ascendance africaine, reconnaît le besoin que les institutions montréalaises reflètent la diversité de sa population.
Oui.
Alors, je crois que de notre posture, de notre positionnement, qui est vraiment de collaboration, parce qu'on est là pour combler des besoins qui existent, que le Conseil des arts de Montréal avait compris très rapidement que c'était nécessaire de participer à un projet comme ça.
Mm-hmm.
Alors, c'est vraiment sur la base de sa conversation-là qu'on a pu arriver à établir un partenariat, une collaboration qui nous permet de faire des choses ensemble, dont c'est le lancement de cette exposition-là qui a eu lieu là, le 28 octobre dernier.
Comment vous avez pu convaincre Emmanuel Mathieu, Martine Froquin, Cécilia Brackmore, de se lancer dans ce projet avec vous? Comment vous avez pu les convaincre?
Écoutez, encore là, j'aimerais ça me donner autant de crédit que de dire que j'ai la capacité de convaincre les gens.
Oui.
Mais c'est pas ça du tout. Moi, je dirais c'est surtout que les gens reconnaissaient immédiatement qu'il y avait un besoin qui existait.
Oui.
Mais que ce besoin-là, c'était pas suffisant de dire qu'on allait le régler, mais qu'il fallait absolument avoir les bonnes personnes à la table. Avec la détermination, la passion, la discipline, la rigueur et le sens de l'organisation nécessaire pour faire aboutir ça.
Mmh.
Moi, qu'est-ce que j'ai pu démontrer à chaque personne, c'est que dans mes représentations, que j'ai été extrêmement rassembleur, en ce sens qu'on est allé parler à presque tout le monde dans la ville de Montréal, que ce soit des institutions, que ce soit des organismes communautaires issus de la communauté noire ou non issus de la communauté noire, que ce soit des hommes et des femmes d'affaires, des corporations. Alors, tout le monde a été mené à la table. Alors, je crois que ça a fait jaillir des perspectives qui ont pu permettre à ce projet-là d'avancer aussi rapidement qu'on a pu le faire.
Oui.
Donc, c'était un peu plus facile pour moi quand j'approchais des gens que j'avais jamais rencontrés par le passé et je les comptais. Cette folie-là d'un rêve que j'ai eu, c'était beaucoup plus facile pour eux d'embarquer dans un projet comme ça. Mmh. Une fois qu'ils avaient compris qu'il y avait une équipe qui avait été bien choisie pour mener à bien ce projet-là, pour s'assurer qu'elle représente la ville de Montréal, la diversité au sein de nos communautés, mais également quelque chose de grand qui peut faire vraiment la fierté de notre communauté, de nos communautés.
Merci, merci. Et je vais en parler de l'autre exposition aussi qui est déjà finie, parce que moi je ne savais même pas ce que c'est. Wild Black, c'est cette série pluriannuelle de forums, de discussions, de présentations. Je me suis dit, mais Alain et son équipe, ils voient grand, ils vont fort, ça tape.
Tout, hein, tout à fait. En fait, on a eu la chance de faire ça et ça a été fait encore de manière collaborative et qui est vraiment la posture du CECAM que de dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On reconnaît qu'il y a des gens qui étaient là avant nous qui ont fait des choses également puis que c'est important pour nous d'apprendre d'eux, mais de bâtir avec eux également.
Oui.
Notre posture n'est pas tant une posture du passé que ça l'est un positionnement vers l'avenir avec les horizons qui s'ouvrent devant nous.
Oui.
Mais on reconnaît le travail qui a été effectué par d'autres qui étaient là avec nous.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est important pour nous de continuer à collaborer pour montrer l'exemple, pour montrer qu'au niveau de différentes communautés, on a la capacité d'enfants de travailler ensemble pour produire des belles choses.
Mm-hmm.
Alors, l'exposition Wild Black avait été effectuée en collaboration justement avec Wild Black. Le Wild Black à Montréal avait été effectué avec Wild Black pour encore permettre à des gens du milieu de la culture et de l'art de pouvoir s'exprimer sur certains dossiers qu'on pense qui sont vraiment fondamentaux.
Mm-hmm.
Quand ça vient, dans le fond, de discuter de qu'est-ce que c'est notre communauté, c'est quoi les enjeux également qui gangrènent nos communautés.
Oui. Alain, comment se fait la promotion de ce centre culturel auprès des communautés noires? Si je n'étais pas allé au sommet de la Fondation Dynastie, je n'allais pas le savoir.
Tout à fait. Alors, on reconnaît qu'on a encore du travail à faire.
Mm-hmm.
On veut continuer à rencontrer des gens. Le travail a été fait vraiment de manière collaborative, mais surtout en utilisant une approche qui était beaucoup plus participative que ça l'aurait été fait dans le passé. Alors, on a pris à peu près 15-14 mois oui. avant de faire nos premières déclarations publiques oui. parce qu'on voulait s'assurer qu'on allait présenter quelque chose qui était vraiment à la hauteur de ce qu'on pensait qu'il pouvait être présenté. Mm-hmm. Alors, on a fait une apparition, on a plusieurs activités qui ont été organisées. Tu viens de mentionner World Black qui a eu lieu au mois de septembre-octobre. Tu viens de mentionner également l'exposition qui est présentement en cours Armes spéculaires avec Manuel Mathieu et Martine Fauquant et commissariée par Cécilia Braquemort. Oui. Mais on n'oublie pas qu'on a également récemment organisé à l'hôtel Ritz-Carlton la soirée de reconnaissance du CECAM, qui est vraiment la première édition d'une soirée d'enfants qui célèbre l'héritage des communautés noires. Alors cette année, la première récipiendaire du prix, c'était Mme Madeleine Fekir, justement, qui a été une femme extraordinaire, qui a mentoré toute une génération de jeunes femmes dans la ville de Montréal et en particulier issues des communautés noires. Alors, nous, via l'organisation de cette activité-là qui a eu lieu le 10 novembre, on a pu quand même recevoir de l'attention médiatique quand même assez significative. On l'a fait également avec le lancement de l'exposition avec Manuel Mathieu et Martine Fauquant. Oui. Alors, via Radio-Canada, via CBC, on a eu Global News, on a eu plusieurs médiums qui nous ont approchés. Et là, on est chanceux d'être avec vous, avec l'émission ici. Et je crois que c'est le travail qu'on fait à parler à des gens comme vous qui s'intéressent à ce genre d'initiative structurante mm-hmm. qu'on va finir par faire cheminer le travail qu'on fait et dans le fond sensibiliser les gens par rapport à qu'est-ce que c'est le Centre culturel afro-canadien de Montréal mm-hmm. et on va continuer à faire ce travail-là dans les prochains mois et les prochaines semaines à venir.
Ouais, si je reviens à la bourse Hélène Madeleine Fekir, donc c'est de là qu'est née cette bourse-là d'ailleurs.
C'est un peu un scoop que je vous donne ici, effectivement, parce que c'est la première fois que j'en parle publiquement. Et d'ailleurs, je savais que j'allais être vous parler aujourd'hui.
Oui.
Effectivement, on a lancé cette initiative-là parce qu'on se reconnaît qu'un des problèmes majeurs dans le milieu des arts et de la culture et dans le milieu de l'industrie créative, c'est que nos communautés n'ont pas toujours accès à des fonds.
Oui.
Alors, souvent, pour avoir accès à du financement pour des projets, ça requiert vraiment, vraiment beaucoup de détours.
Alain, tu te rappelles, lors du sommet de Fondation Dynastie, on était souvent revenu sur ça, d'ailleurs, durant les deux jours.
Tout à fait.
Oui, oui.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un enjeu qu'on reconnaît qui est vraiment majeur.
Oui.
Alors, la création, dans le fond, de la bourse Élan s'inscrit, dans le fond, dans notre démarche de s'assurer que, au-delà de dire qu'on parle, qu'on crée de la programmation, mais qu'on puisse également utiliser les ressources qui sont à notre disposition
oui.
pour aller chercher des fonds qui puissent financer, dans le fond, des activités organisées par nos jeunes, par nos artistes, par nos entrepreneurs culturels, etc.
Oui.
Alors, ça s'inscrit vraiment dans cette dimension-là. Et d'ailleurs, la soirée de reconnaissance, qui est vraiment un événement annuel du CECAM, qui va revenir l'année prochaine également au mois de novembre,
okay.
Se veut un événement qui nous permet justement d'amasser assez de fonds afin de financer ces activités-là d'année en année, en année, en année. Mmh. On a été chanceux d'avoir cette année une première bourse de 5 000 $ qui nous a été offerte par Madame Madeleine Fekir, qui est la récipiendaire dans le fond du prix cette année
oui.
et qui va pouvoir se maintenir au courant des prochaines années également.
OK. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, ils vont se dire, mais ce centre culturel afro-canadien, il est situé où? Quand est-ce que je peux aller visiter?
Le centre culturel afro-canadien de Montréal existe dans l'espace en ce moment. En ce sens que, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? C'est vraiment de démontrer, donner un avant-goût de ce que sera ce centre-là quand ça va être lancé.
Oui.
J'espère pouvoir faire une annonce prochainement.
Oui.
Et j'aurais bien hâte, dans le fond, de pouvoir en parler davantage avec vous quand ça va être le temps de faire cette annonce-là.
Oui.
Mais les démarches sont en cours, effectivement, là, pour annoncer quelque chose dans les mois à venir. Et je pense que ça va faire vraiment le bonheur de toutes nos communautés que de savoir qu'on est en train de travailler fort pour avoir cet espace-là. Mais notre focus en ce moment, c'est vraiment sur les communautés, parce qu'on n'a pas besoin d'un espace physique pour faire le travail qu'on fait.
Oui, alors, il faut commencer par là comme ça.
Oui, exactement. Oui. On a été de le montrer avec l'organisation de différentes activités, la mise en place de la bourse. Alors, nous, notre focus en ce moment, c'est de montrer comment peut-on être utile à nos communautés, sans égard à l'existence d'un espace physique ou pas.
De toute façon, ça viendra. On aura l'occasion de se retrouver dans cet espace physique-là. Voilà, ça
c'est tout à fait, je l'espère.
Alors, comment quand les gens de la communauté qui savent qu'il y a quelque chose comme ça qui existe maintenant, quand vous les rencontrez, quand tu les rencontres, Alain, qu'est-ce qu'ils te disent? Comment, quelle est leur réaction? Ceux qui viennent de l'apprendre ou bien qui ont appris ça dernièrement et qui n'ont pas su que ça existait. Comment est-ce qu'ils te critiquent, ils te disent « Oh Alain, pourquoi tu ne m'as pas mis au courant? Pourquoi est-ce que je ne suis pas informé? Pourquoi je ne suis pas au courant ?» Est-ce que tu arrives vraiment à leur dire... Parce qu'on est en train de faire la promotion comme ça, comme tu l'as dit, Radio-Canada, CBC et autres, aujourd'hui chez nous ici à Canal M. Les gens, est-ce qu'ils se disent « Ah waouh, merci à toi et à toute l'équipe derrière. »
C'est effectivement... Je pense que la réponse, sans faute fulgence, a été une démonstration d'admiration, mais également, je crois, ça a été une démonstration de volonté d'implication.
Mm-hmm.
Alors, on n'a pas encore eu, au moins dans ma représentation et de la rencontre que j'ai eue à date, mm-hmm. Je n'ai eu personne qui m'a dit, ben comment ça, j'ai pas été mis au courant.
Mm-hmm.
Je crois que l'idée du CECAM également fait son chemin dans la communauté de manière quand même assez tranquille.
Mm-hmm.
Alors, tout le monde sait que ça existe, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui est encore, on dirait en anglais, out in the public. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement affiché parce qu'on a des annonces à faire qui vont venir dans les prochains mois. Et je crois que au fur et à mesure que le temps y avance, au fur et à mesure qu'on met en place la programmation, les gens vont pouvoir se familiariser davantage avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait.
Oui.
Et on est très ouvert à entendre la perspective de tout le monde qui a quelque chose à dire. On a une adresse courriel, on a un site web, www.ccamontréal.ca. Vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux. Alors, on invite tout le monde à nous donner leur perspective, parce que c'est ça qui fait la force du CECAM.
Oui.
C'est que, au lieu que ce soit l'idée d'une personne qui décide qu'il y a une bonne idée qui fait quelque chose, ben c'est l'idée d'une personne qui a cru que pour y arriver, ça prenait dans le fond tout un village pour y arriver et qui est passé rencontrer des gens qui avaient des perspectives à offrir, qui ont renforcé ce projet-là afin de le mettre ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est également une démonstration d'humilité de la part de notre communauté de façon générale, que de se dire on va tous se mettre ensemble, peu importe nos origines. On peut être haïtien, on peut être sénégalais, on peut être jamaïcain, on peut être congolais.
Mais c'est ce qui fait que tu as précisé des communautés noires.
Des communautés noires.
Alors, voilà, c'est très important.
C'est pas choisi par hasard.
Non, des
parce
communautés
qu'on veut
noires.
Absolument
oui.
démontrer
on
que
vient de partout là.
On vient de partout. On n'est pas monolithe. Non. On a une diversité, une richesse qui existe au sein même de notre communauté, qui doit être célébrée, qui doit être appréciée et qui doit être qu'on doit faire rayonner également.
Oui, oui, oui. C'est cette facette-là aussi qui a fait que j'ai beaucoup adoré ce sommet de la Fondation Dynastie d'ailleurs, et où les gens qui ont des difficultés à lancer le carrière artistique ou bien, je sais quoi, le projet ou aller chercher les fonds, les subventions, d'autres qui disent, voilà, c'est facile, comment dirais-je, les moyens sont, il faut aller chercher. Oui, mais est-ce que tu as dit à ton voisin comment tu es passé par quelle source d'eau tu as nagé pour arriver là? Non.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
On vient pas ici pour dire bon que les moyens sont là. Moi je les ai. Pourquoi lui, l'autre, pourquoi il va pas les chercher? Mais comment tu allais les chercher? Il faut lui dire aussi. On se tend les mains. Arrêtons de nous méfier des uns et des autres. Travaillons les mains dans la main.
Tout à fait. Et je crois que moi, l'idée même de partir cette initiative-là, elle est partie en fond d'une croyance fondamentale que à l'instar de ce que disent les autres, on a la capacité de travailler ensemble.
Ah oui.
On peut le démontrer.
Ça, c'est clair.
La réalisation du CECAM, la mise en place de ce projet-là, l'aboutissement de où ce qu'on est aujourd'hui, c'est une démonstration. Dans le fond, on est en train de démentir cette idée-là qui dit que nos communautés ne savent pas comment travailler ensemble. Mmh. Et avec le CECAM, on est en train de démontrer que c'est une fausseté, que ça n'existe pas.
Ah non, non, non.
Si ça prend les bonnes personnes, on a des causes qui nous unissent. On a des différences également, mais si on met l'accent sur qu'est-ce qui nous unit, au lieu que sur les petites différences vraiment qui sont vraiment minimes comparativement à qu'est-ce qui nous rassemble, ben on peut créer de belles choses ensemble.
Mais à la même au sein d'une famille entre les frères et sœurs, il y a des choses.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est clair. Tout à fait. Ça c'est. Alors un dernier mot à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient. Moi j'ai hâte parce que j'aurais eu des échos que ce serait même en plein centre-ville de Montréal, là, au quartier des spectacles.
Mais je ne suis pas prêt à m'avancer à ce moment parce que je crois qu'on veut vraiment
je vous laisse nous surprendre dans les semaines, dans les mois à venir.
Écoutez, on aura de belles choses à annoncer dans les mois à venir et pas seulement sur un futur site, etc. Mais en particulier dans le fond sur le travail qu'on doit continuer à faire pour s'assurer qu'on met de l'avant nos communautés, pour s'assurer qu'on puisse participer dans les discussions par rapport à la manière de faire rayonner notre communauté, sur des discussions par rapport aux ressources qu'on doit créer pour mettre à la disposition de notre communauté. Moi, c'est ce sur quoi en ce moment que je continue à mettre mon focus. Et qu'est-ce qui vient après, ça viendra après, mais je crois qu'on peut faire ces choses-là puis faire une différence quand même, eu égard à un espace ou non.
Merci beaucoup, Alain Alexandre, fondateur du conseil du Centre culturel afro-canadien de Montréal, le CCAM, C-C-A-M, c'est bien ça. Et le site, l'adresse, le lien, c'est ccamontréal, en un seul mot, .ca. Et ceux qui veulent vous envoyer un courriel, c'est info@ccamontréal, en un seul mot, .ca. Et puis, bon, ben, au plaisir. Moi, j'aimerais bien vous recevoir ici encore pour nous dire Fulgence, c'est fini, on s'en va. Venez, les portes sont ouvertes.
Écoutez, j'ai bien hâte de revenir puis vous parler à vos auditeurs et auditrices également. Ça fait tout un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui pour vous en apprendre davantage sur le centre culturel et nous espérons pouvoir vous en dire davantage dans les prochains mois.
Merci beaucoup, Alain Alexandre, fondateur du Centre culturel afro-canadien de Montréal. Merci. Et comment dirais-je? Oui? OK. Et bon reste de semaine.
Merci beaucoup, pareillement.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Niache kuchapalapa, nigandane na wewe. Waliopita ni wapuzie.
Penzi lako alijawahi tokea. Oui, c'était Alain Alexandre, fondateur du Centre culturel afro-canadien de Montréal, le CECAM. Voilà, je dis merci à toi, Mathieu. Tessier, hein? On se retrouve demain, bien sûr.
Oui.
T'as pas le choix.
Oui, mais c'est un plaisir quand même.
Ouais. Merci de ta belle collaboration à la régie. Et je dis merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis le début de l'émission. On se retrouve, demain la même sur les ondes du Canal M. Là, on termine en beauté avec qui? Avec Christiane Bella et la complicité de Rosary Only You. Et puis, bon foot mondial au Qatar. Pour ceux qui se lèvent à 5h du matin pour voir tous les matchs, ils veulent rien rater du tout. C'est jusqu'au 20 décembre, 18-20 décembre par là, jusqu'à la fin du mois de décembre. Ah oui, on va en parler tous les jours ici. C'est un événement aux 4 ans, donc on n'y peut rien, Mathieu. C'est comme ça. Allez, sur ce, je vous dis ciao, on se retrouve demain. I'm a G la kwako, I'm a lady. Pende ni kupende paka tuje tudate. Ni kupendele paka ni kupeka, baby. Oh yeah, of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about our dealings. We can make love but we also handle business. Niki fumba macho na kuona wewe. Niki wana nani mambo niende. You know me love you long time. And you better every day like you fine wine. Every time I see your face you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Ah. Only you, only you, only you. 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 Maliza vyote mama. Adini sivyo vijua. Nichanganie changanie. Nione mapicha picha. Tufike wote tena. Tamu nyongo sije kutia. Moyo wangu kapata pata shika. Waokope wapashikuna. Awachelewi kwa ribu mambo. Yakawa sio hey. Tusichoke dua. Tumuombe Mola. Hata wakia vubua, wakilenga ola. Usije ukaniungua nikikosa hela kijora. Najua unajua, nakupenda sana. Baby, I love you. Only you.